Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans le roman de Vienne, Jean Descartes propose moins une histoire académique exhaustive qu'un parcours culturel et historique à travers la capitale autrichienne. Historien des dynasties européennes et journaliste de formation, l'auteur adopte une écriture de chroniqueur. Il relie les grandes périodes de la ville à ses lieux, à ses pratiques sociales et aux figures artistiques qui ont contribué à son prestige. Le livre traverse la Vienne impériale des Habsbourg, mais ne s'y limite pas. Il évoque également la ville bourgeoise et populaire, la période républicaine et socialiste, l'Anschluss, les bombardements, l'occupation alliée puis le retour à la souveraineté en 1955, les cafés, les collections muséales, la valse, l'architecture baroque et la sécession viennoise servent de porte d'entrée concrète. L'objectif est de faire comprendre comment Vienne est devenue un foyer européen où le pouvoir politique, l'art et l'art de vivre se sont durablement entremêlés. Il s'agit ainsi d'un ouvrage de vulgarisation historique destiné autant aux lecteurs curieux qu'aux visiteurs souhaitant situer les monuments dans une histoire plus large. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les Habsbourg comme cadre politique de la longue durée viennoise. L'un des axes essentiels du livre est la place de Vienne dans l'histoire de la monarchie des Habsbourg. Jean Descartes, connu pour ses travaux consacrés aux dynasties européennes, s'appuie sur cette continuité pour expliquer pourquoi la ville a acquis une fonction qui dépasse largement celle d'une simple capitale nationale. Pendant des siècles, elle est un centre de gouvernement, de représentation et de diplomatie pour un ensemble impérial composite. Cette position attire des élites, des artistes, des collections et des institutions dont l'empreinte demeure visible dans le paysage urbain. L'intérêt de cette approche est d'éviter de réduire Vienne à quelques images convenues, telles que Sissi, les palais ou les valses. Le pouvoir dynastique est présenté comme une structure qui organise la vie culturelle, finance le prestige architectural et donne à la ville son rayonnement international. Le livre rappelle aussi que cette grandeur n'est ni linéaire ni éternelle. Les transformations politiques du XXe siècle modifient profondément le statut de la métropole. La perspective dynastique permet donc de comprendre à la fois la densité patrimoniale de Vienne et la force symbolique de la rupture provoquée par la fin de l'Empire. Elle fournit un fil directeur utile, même si l'ouvrage privilégie volontiers les détours anecdotiques à une démonstration chronologique systématique. Deuxièmement, une ville façonnée par les sièges ottomans, les échanges et la mémoire urbaine, le roman de Vienne accorde une attention notable aux relations entre Vienne, l'Autriche et le monde ottoman. Les deux sièges de la ville par les Turcs au XVIe et XVIIe siècle appartiennent à la mémoire collective viennoise et constituent un repère majeur pour saisir sa position de frontière entre des espaces politiques et culturels. Jean Descartes ne les traite pas seulement comme des épisodes militaires, ils éclairent aussi la manière dont une ville transforme des conflits anciens en traditions, en récits et en pratiques quotidiennes. Les cafés viennois, décrits comme des institutions de sociabilité, sont ainsi rapprochés de cette mémoire historique dans la présentation de l'ouvrage. Cette articulation entre guerres, légendes et vies urbaines montre que l'identité d'une capitale se construit autant par les usages de ses habitants que par les décisions des souverains. Le sujet invite également à nuancer l'idée d'une Europe centrale isolée Vienne, c'est défini dans la confrontation, mais aussi dans la circulation d'influence, de marchandises et de goûts. Pour un lecteur préparant un séjour, cette dimension aide à regarder les cafés au-delà de leur décor, ils représentent des lieux de conversation, de lecture et d'observation sociale liés à une histoire plus vaste. Le livre privilégie ici une histoire incarnée où les traces culturelles prolongent des événements géopolitiques anciens. Troisièmement, musique, danse et sociabilité, la valse comme langage civique de Vienne. La musique constitue chez Jean Descartes un moyen central de lire la ville. Vienne n'est pas seulement associée à de grands compositeurs, elle est décrite comme un espace où les institutions musicales, les églises, les salles de bal et les habitudes mondaines ont façonné une culture partagée. Les références à Haydn et Mahler, ainsi qu'aux écoles où l'on enseigne encore la valse selon un cérémonial traditionnel, soulignent cette continuité entre patrimoine savant et pratique sociale. La valse mérite une attention particulière parce qu'elle condense l'image internationale de Vienne tout en renvoyant à une histoire concrète des classes sociales, des fêtes et de la représentation. Elle ne relève donc pas uniquement du folklore touristique. Dans le récit, les lieux de musique et de danse illustrent la capacité de la ville à ritualiser son passé sans cesser de le réinterpréter. Les églises baroques participent également à cette lecture, leur rôle ne se limite pas à l'architecture religieuse, puisqu'elles sont évoquées comme des cadres où résonne une tradition musicale majeure. L'intérêt analytique de ce thème est de montrer que l'art de vivre viennois repose sur des espaces collectifs. La musique relie les milieux aristocratiques, bourgeois et populaires, tout en contribuant au prestige culturel de la capitale. Le lecteur comprend ainsi pourquoi le concert, le bal et le café forment un ensemble cohérent dans l'imaginaire viennois. Quatrièmement, de la sécession à la modernité Klimt. Wagner et Hoffmann contre l'immobilité du décor impérial, le livre ne présente pas Vienne comme une ville figée dans la nostalgie impériale. L'évocation de l'art nouveau et de la sécession autour de 1900 introduit une autre force historique, la volonté de rompre avec les conventions esthétiques dominantes. Gustav Klimt, Otto Wagner et Joseph Hoffmann y incarnent, chacun dans son domaine, une modernisation des arts visuels, de l'architecture et des arts décoratifs. Leur présence est importante parce qu'elle corrige une lecture exclusivement monarchique de la ville. Au moment où les symboles de l'Empire restent omniprésents, Vienne devient aussi un laboratoire d'avant-garde. L'ouvrage insiste sur la coexistence du classique et de l'innovation, caractéristique de la capitale dans sa présentation éditoriale. Cette tension aide à comprendre la richesse de son patrimoine, les bâtiments baroques. Les musées princiers et les réalisations de la modernité ne sont pas des attractions indépendantes, mais les signes de période et de conception de la société parfois opposées. La sécession traduit notamment le refus de soumettre la création au seul modèle hérité. Pour le lecteur, ce chapitre culturel élargit l'idée de Vienne, la ville de la valse, est également celle qui a favorisé des formes artistiques nouvelles. Jean Descartes privilégie une approche accessible, fondée sur des figures identifiables et sur les lieux qui permettent de constater visuellement cette transformation. En dernier lieu, du déclin impérial à 1955, intégrer les ruptures politiques au récit de la capitale. Une des qualités du panorama proposé est de ne pas interrompre l'histoire de Vienne à l'apogée des Habsbourg. Jean Descartes inclut les épisodes plus douloureux et plus complexes qui transforment la capitale au XXe siècle, la période républicaine, l'expérience socialiste, l'annexion nazie, les destructions de guerre, l'occupation et le rétablissement de la liberté en 1955. Cette succession rappelle que l'identité viennoise ne procède pas d'un âge d'or intact, mais d'adaptations répétées à des bouleversements politiques. La mention de l'occupation et de la libération est particulièrement importante, elle replace la ville dans l'histoire européenne de l'après-guerre, lorsque la souveraineté autrichienne est restaurée par le traité d'État de 1955. En intégrant ces étapes à une flânerie consacrée aussi au café, au palais et aux arts, l'ouvrage évite que le patrimoine ne soit perçu comme un simple décor. Les monuments et les institutions ont traversé des changements de régime, des pertes territoriales et des traumatismes collectifs. Cette perspective est utile pour un lecteur non spécialiste, car elle établit des repères sans prétendre remplacer une étude détaillée de l'Autriche contemporaine. Elle met aussi en évidence le paradoxe d'une ville capable de préserver des traditions prestigieuses tout en étant confrontée aux crises les plus violentes du continent. La structure parfois éclatée signalée par certains lecteurs découle en partie de ce choix d'embrasser des temporalités et des sujets très divers. En conclusion, le roman de Vienne s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent découvrir l'histoire de la capitale autrichienne sans entrer immédiatement dans une monographie universitaire. Il conviendra particulièrement aux voyageurs désireux de préparer une visite les cafés, musées, églises. Salles de bal et réalisations de la sécession y apparaissent comme des points d'observation reliés à des siècles d'histoire. Il intéressera aussi les amateurs de culture européenne, de musique et de dynastie, notamment ceux qui cherchent à replacer les Habsbourg dans le cadre concret de leur capitale. Son apport pratique consiste à donner du sens aux lieux emblématiques. Son apport intellectuel est de faire percevoir les liens entre pouvoir impérial, sociabilité urbaine, création artistique et rupture du XXe siècle. Par rapport à un guide touristique, le livre offre davantage de profondeur historique et de continuité culturelle. Par rapport à une synthèse académique, il privilégie une lecture plus libre, nourrie d'anecdotes et de portraits, avec le ton d'un conteur. Cette singularité explique à la fois son attrait et sa limite. L'ouvrage peut sembler parfois dispersé à qui attend une chronologie rigoureuse ou une analyse historiographique détaillée. Mais cette composition en flânerie est précisément ce qui le distingue dans sa catégorie. Jean Descartes fait de Vienne non un sujet abstrait, mais une ville où les traces matérielles du passé, palais, cafés, œuvres, rites musicaux, permettent de parcourir l'histoire européenne à hauteur de rue.